bienvenue, Eduardo Mendoza, et bienvenue de tout cœur dans cette ville de Bordeaux qui, quoique atlantique, j'ai envie de dire, vous ressemble un peu, vous, parce que vous êtes un Européen, un citoyen européen cosmopolite, que vous savez aimer plusieurs civilisations, que vous l'avez écrit admirablement et que toute votre œuvre est construite là-dessus. Donc c'est un vrai bonheur et une vraie fierté pour moi d'être avec vous aujourd'hui, parce que je vous ai lu pratiquement dès que vos livres ont été traduits en français. D'une certaine manière, vous avez été quelqu'un, sans le savoir, qui m'a accompagné un peu ma construction littéraire. Et c'est vraiment très, très émouvant de recevoir un jour un écrivain qui vous a accompagné ainsi. Alors, nous sommes là pour parler de votre œuvre, qui est maintenant une œuvre diverse, ample, extrêmement construite autour d'une même thématique sur laquelle nous allons revenir, qui explore en fait l'humanité, et l'humanité dans ce qu'elle peut faire, dans ce qu'elle peut édifier, dans ce qu'elle peut construire, mais qui a également toujours un sourire, un peu un regard, un peu de côté, un regard un peu tendre et ironique sur ce que nous sommes. Au cas où il y aurait quelqu'un dans la salle qui ne vous connaîtrait pas, je voudrais rappeler deux, trois dates qui vous concernent. D'abord, il faut rappeler, c'est très, très important, que vous avez eu 20 ans dans une Espagne qui n'existe plus. Et c'est fondamental parce que ça a servi en même temps de matériau à vos romans. Et en même temps, vous en avez été un témoin. Vous avez été un témoin de ce passage du temps, de cette transformation espagnole sur laquelle nous allons revenir. Et surtout, votre premier roman a eu cela de particulier qu'il a été d'abord censuré et ensuite, par une grande ironie du sort, qu'il a eu le prix de la critique. Ce qui est quand même un exploit dont on peut se vanter peu de personnes. Vous avez ensuite continué par le livre, un livre phare, qui est un livre monde, qui s'appelle La ville des prodiges, que naturellement la plupart des Français connaissent, parce qu'il avait remporté un succès énorme en France. Et ensuite, vous avez continué avec des immersions dans des genres très particuliers, qui vont de parfois le roman policier, quoique pastiché, et qui va également vers une réflexion plus profonde sur ce qu'est notre société et la planète telle qu'elle évolue et telle qu'elle va jusqu'au XXe siècle, puisque votre dernier livre, que je n'ai pas encore lu, n'a pas été encore traduit en français, je préfère l'effort de le lire en espagnol, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, ça explore un peu la fin de du XXe siècle tel que vous le voyez, vous. Donc, merci infiniment d'être avec nous. Nous allons avoir trois quarts d'heure ensemble, vous poser des questions. Et ensuite, vu le public imposant et nombreux, que je remercie particulièrement de se déplacer, on va laisser quelques questions au public pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, de telle manière que vers 7h, 7h15, nous puissions en terminer. Alors, la première question que je voudrais vous poser n'a pas à voir avec votre œuvre, encore que elle pourrait s'y rapprocher. Nous venons de vivre un drame en France, mais qui est un drame culturel universel, qui est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et je voudrais savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez à travers ces images de l'incendie, d'autant qu'en plus, vous, à Barcelone, vous avez sous vos yeux l'édification infinie de la Sagrada Familia, qui n'en finit pas d'être construite, et qui est également un lieu touristique inouï. Je voudrais savoir quelle a été votre impression et quel a été votre senti par rapport à ça.
Oui, bon. Et tout d'abord, laissez-moi remercier la ville de Imola de m'avoir accueilli, aussi que la directrice de l'Institut Cervantes, qui m'a invité, qui m'a donné l'opportunité d'être aujourd'hui ici, et à tout le monde pour avoir venu, et particulièrement à vous, de votre présentation. Oui, effectivement, ma femme et moi, nous étions avant-hier, en France, déjà, parce qu'on est venu petit à petit en voiture, en s'arrêtant. On s'était arrêté dans un petit hôtel et quand nous étions au restaurant, nous avons reçu un message de Notre-Dame. C'est incendié, j'ai pensé que c'était une blague. Enfin, c'est pas croyable, n'est-ce pas, la cathédrale. D'ailleurs, on n'imagine pas une chose en pierre qui peut brûler comme ça, si facilement. Mais non, non, enfin, c'était une blague bien idiote. Alors, on a regardé dans le portable, et puis on est allé voir la télévision. On a vu ce spectacle incroyable, une œuvre qui on n'avait jamais imaginé qui pouvait s'écouler d'une façon si surprenante. Puis, d'ailleurs, Notre-Dame a beaucoup de signification. La première qui est venue dans ma tête, c'était naturellement Victor Hugo, parce que je me souviens, quand j'ai lissé, j'avais, je ne sais pas, 14 ans, 15 ans, j'ai lissé Notre-Dame de Paris. Et maintenant, je ne sais pas ce que je penserais de roman de Victor Hugo.
Vous entendiez quelques pages, à mon avis.
Oui, oui. Mais en ce moment-là, la cour des miracles, Quasimodo, et ça fait partie de ma vie, de ma formation sentimentale, littéraire, tout ça. Et tout ça, là, était... bon, ça allait en flamme, n'est-ce pas? Bon, c'est un drame, c'est un drame. Maintenant, il y a un deuxième drame, c'est la reconstruction. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je propose ce qui est responsable de la reconstruction d'aller à Barcelone et voir la Sagrada Familia, la partie ancienne, la partie nouvelle. Et parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Mais il faut faire quelque chose. Enfin, c'est notre problème. Ça a été un choc, évidemment, pour moi, comme pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le symbole de Paris, l'image de la Tour Eiffel et Notre-Dame. Alors, si demain brûle la Tour Eiffel, je ne sais pas ce que je vais faire.
Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Les structures résisteront peut-être un peu mieux. Alors, puisque vous parlez, on vient de parler de Notre-Dame de Paris, qui est quand même quelque chose qui occupe très naturellement, si vous voulez, notre émotion collective, il y a également un de vos romans qui est un roman qui, de ce point de vue-là, peut être considéré comme un roman hugolien. C'est naturellement La Ville des Prodiges. J'aimerais savoir comment l'avez-vous conçu? Vous l'avez conçu comme l'histoire de votre patrie, de votre peuple, de votre ville. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette construction?
Je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien.
Vous l'avez écrit en 1989 ou 10, je ne sais plus exactement.
Oui, je l'ai commencé. Ça a été très compliqué, la conception, la réalisation de La Ville des Prodiges. J'avais fait un premier roman, enfin j'avais fait d'autres romans, mais le premier que j'avais publié, c'était La vérité sur l'affaire Chabolta, qui a été censuré et qui puis a été publié, a gagné le prix de la critique, et a eu un succès que je n'attendais pas. Un succès, je ne sais pas si le livre est bon ou mauvais, je ne sais pas. Je ne peux pas juger mes propres livres. Mais ça a coïncidé, la publication, avec la mort de Franco. C'était en 1975. Alors, tout ce qui s'est passé avait une grande importance en Espagne. Le livre a été publié par des raisons purement commerciales de la maison d'édition. Ils n'avaient pas le plan de les publier... le jour de la mort de Franco, mais ça a coïncidé. Alors le livre a eu une importance supérieure à celle que le livre méritait et surtout à celle que j'attendais. Alors je me suis trouvé avec un premier roman un peu situé au premier rang des écrivains. J'avais commencé un deuxième roman qui voulait être la ville des prodiges, qui était l'histoire d'un type qui arrive à Barcelone et qui, dont la vie, sa vie personnelle et la vie de la ville, bon, pareil, ils vont ensemble. Mais je me suis trouvé dans cette situation que tout le monde disait, mais voyons, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième roman? Alors, j'ai eu une paralyse, le blocage des écrivains. Et heureusement, j'étais jeune, alors j'avais le temps d'avoir de paralyse, des choses comme ça. Ça m'a pris 7 ou 8 ans d'écrire, d'arrêter, de revenir. Dans tous ces procès, l'idée originale a changé. J'ai décidé de faire une vie double, la vie d'une personne, la vie de Barcelone, dans ce moment où la ville change. J'ai aussi notre belle coïncidence, parce que si le premier a coïncidé avec la mort de Franco, le commencement de la transition, de la démocratisation, le deuxième roman, enfin, ce n'était pas le deuxième, mais il y a eu un petit roman, le mystère de la crypte ensorcelée, que j'ai publié avant,
oui, qui est une
pour sortir un peu de
un roman policier.
Un roman policier, un clip d'humour, une parodie d'un polar,
oui.
Qui m'a enlevé cette espèce de d'expectative qu'il y avait. Ça a coïncidé avec l'inattendu essor de Barcelone, qui était une ville de deuxième ou troisième rang, une ville que personne ne connaissait pas. Enfin, c'était une ville, elle était connue évidemment, mais elle était connue du point de vue géographique. Les touristes passaient par Barcelone, elle allait aux plages du sud, personne ne s'arrêtait à Barcelone. Dans le guide touristique, Barcelone n'était pas, ce qui était très bon pour moi, parce que c'est un territoire vierge du point de vue littéraire. Alors j'ai inventé toute l'histoire de Barcelone, tout ce que je raconte, c'est faux. mais j'ai trouvé des références incroyables. Tout était pour moi, parce que c'était un terrain vague. Alors, j'ai commencé à écrire, et ça finit pour être un roman. Et quand le roman a été publié, Barcelone avait commencé déjà cette évolution vers cette ville qui est maintenant détruite par le tourisme.
Détruite par le tourisme?
Oui, totalement. Totalement. C'est converti dans un parc thématique. Enfin, c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller.
On peut vérifier.
Constater.
Hélas, comme touriste. Mais vous ne vivez plus à Barcelone aujourd'hui. Vous vivez entre Londres.
Oui, non, je partage ma vie entre Barcelone et Londres.
Bon, il faut dire également, je l'ai pas précisé dans la présentation, vous avez vécu à New York.
Oui, j'ai vécu à New York.
Vous vivez à Londres, vous connaissez particulièrement bien la société britannique et vous parlez un anglais parfait. Je ne sais pas si votre moustache a à voir avec un aspect britannique, je ne le pense pas. Mais pour en revenir à Barcelone, il est exact que votre roman a paru en même temps, enfin a été traduit ici en France, juste au moment où Barcelone était en train d'émerger, et notamment dans les années, au début des années 90. Juste avant l'année 92, qui a été l'année fameuse de Barcelone. Et de ce point de vue-là, entre votre premier roman, qui a été un peu le symbole de la transition, peut-être que c'est peut-être le hasard, mais vous faites partie de ces écrivains qui symbolisaient à vous seul et par votre livre la transition culturelle et littéraire qui a eu lieu après Franco. Et de la même façon, avec la ville des prodiges, vous prévoyez ce qui va advenir. Est-ce que ce côté un peu écrivain visionnaire, ça vous a suivi, ça vous a perturbé, ça vous a...
Vous savez, Quand vous écrivez, enfin, vous le savez parce que vous écrivez vous-même, c'est la même chose. Si vous échouez ou si vous avez un grand succès, c'est toujours terrible. Parce que... et maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous publiez un livre, vous avez un grand succès, par exemple. Vous dites, et maintenant, qu'est-ce que... Je n'ai aucune idée. Plus jamais je n'aurai la capacité d'écrire un livre comme ça. Alors, quand la ville des prodiges, de la main de Barcelone, qui m'a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Parce que si c'était seulement le roman sur l'évolution d'une ville, c'est pas la même chose que si c'est l'évolution d'une ville à la mode, une ville que tout le monde veut bien voir, que tout le monde connaît, qui a une certaine sens symbolique, comme la ville de Prodige, par exemple. La ville de Prodige est un titre que j'ai pensé voulait dire la ville de des idiots, la ville de gens qui croient n'importe quoi, qui est facile à duper. Mais avec l'évolution de Barcelone, ces prodiges ont été les prodiges de la ville. Alors je ne dis jamais que je voulais dire que c'était une ville pour de gens un peu... Non, oui, je pensais à la ville comme un grand prodige, je ne le pensais pas. Je ne pensais pas qu'il a... Mais sûrement, quand je l'écrivais, je l'écris un peu partout, parce que dans ces temps-là, j'ai commencé à l'écrire quand j'habitais à New York, puis je suis rentré à Barcelone avec les manuscrits sur mon bras, mais j'ai passé plusieurs années en travaillant comme interprète aux organismes internationaux, un peu partout. J'allais beaucoup à Genève, à l'ONU, à Vienne, un peu partout. Alors j'avais cette vision de grande ville. Qu'est-ce qui se passe aux grandes villes? J'avais vu, par exemple, New York. Quand je suis arrivé à New York, c'était en 1973. C'était une ville affreuse, terrible. Personne ne voulait pas aller à New York. C'était très dangereux. C'était laide. C'était épouvantable. Tout le monde disait, ah, non, n'allez pas à New York. New York, c'est l'enfer. Je suis arrivé là, très impressionné. Je voulais revenir très vite en Europe. Et puis, j'ai vu comme New York, sans changer exactement, parce que rien n'est changé du point de vue physique, même administratif, est devenue la ville, le centre du glamour, de la mode. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai vu ces phénomènes. Et j'ai vu le même phénomène à Barcelone. Et j'ai vu aussi, par exemple, je me souviens de Vienne. Vienne était une ville aussi abîmée, finie, parce que c'était une ancienne ville qui avec l'Europe de l'Est, était coincée. Alors, le mur de Berlin est tombé et Vienne est devenue le centre de l'Europe une autre fois, la ville de Valls. Je vis ces phénomènes de changement des villes. Ça m'intéressait beaucoup. Je ne suis pas très intelligent, mais je crois que j'ai un certain sens de ce qui se passe
une certaine intuition
autour de moi.
Une intuition des changements.
Oui, je vais dans la rue, je ne vois rien, je ne comprends rien. Mais puis, quand je rentre à la maison, j'ai une idée. J'ai une idée de ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit être ça.
Alors, dans l'ensemble de tout ce que vous avez écrit, de tous vos livres, il y a entre des romans dits sérieux, des incises. Et ces incises, ce sont des romans policiers. Vous en avez écrit, je crois, 4, mais je peux me tromper, il me semble. 4 dans
ou 5, je ne sais pas.
Pardonnez-moi, je suis un peu imprécis. Mais dans lequel on retrouve le même détective. Et est-ce que vous considérez que ces romans, qui sont souvent des pastiches, qui sont plutôt drôles, mais en même temps avec une intrigue policière, vous les écrivez pour vous délasser? Vous les écrivez parce que c'est vous considérez que ça fait partie de votre univers littéraire? Comment vous abordez ce genre-là?
Oui, en fait, tout ça a commencé, comme je vous racontais avant, avec le problème que j'ai eu après mon premier roman. Je ne savais pas que faire. J'étais toujours très, très fier de romans policiers. Et c'était très à la mode. Aux années 70, surtout en Espagne, la grande mode du roman noir, du polar, San Antonio, Raymond Chandler, le film noir, tout ça. Alors on pensait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un roman noir espagnol? Est-il possible d'écrire un roman policier espagnol qui se passe en Espagne, avec un détective espagnol, avec... et nous pensions, non, c'est pas possible, parce que le roman policier vient d'une société bourgeoise, intellectuellement plus évolue que l'Espagne, la police. Enfin, c'était une chose qui n'était pas pour nous. Mais on avait l'intention d'essayer... Alors, c'est Vázquez Montalbán qui a commencé à écrire un roman policier avec l'intention d'écrire de romans policiers espagnols qui racontaient la réalité sociale à l'Espagne.
Mais pardon, vous vous connaissiez avec Montalbán?
Nous, c'était une très bonne famille, oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'est parti de nos conversations sur des romans, le roman policier, qu'est-ce que tu as lu, tu connais cet auteur, etc. Et pourrait-on faire quelque chose? Alors il a commencé, il était très intelligent, j'avais beaucoup envie d'être comme lui, et j'ai pensé, mais je ne peux pas faire ça, parce que pour écrire un roman policier, il faut être très, très intelligent, très logique, avoir une histoire, une solution d'un problème. Je ne savais pas comment le faire. Mais quand j'étais dans cette situation bloquée, après le premier roman, j'ai décidé un jour de faire un roman policier, n'importe comment, sans penser ni l'histoire, ni la solution, ni même pas. Et ça c'est d'une folie. Alors le protagoniste, le détective, ça sera un fou qui est dans une institution, qui sort, qui se trouve dans une ville qui ne reconnaît pas. J'étais à New York dans ce temps-là, je suis rentré à Barcelone. Je n'ai pas reconnu la ville parce que c'était la première fois que je rentrais chez moi après la mort de Franco. Tout était changé, tout était changé. Les gens étaient comme affolés. C'était la folie dans la rue. Il avait un chemin difficile du point de vue politique, problème économique sérieux, l'intégration en Europe. Mais ça, c'était une chose. La rue, c'était complètement différent. C'était une fête continue. Alors, je me suis trouvé dans une ville que je ne reconnaissais pas, et qui était comme une institution mentale où tous les malades sont dans la rue en train de fêter cette liberté sans savoir pourquoi ni qu'est-ce qu'ils font. Et sûr, alors j'écris dans une semaine, sans m'arrêter, ces romans que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup rigolé. Je l'ai envoyé à la maison d'édition. J'ai dit, voilà, j'écris ça, je ne sais pas si ça peut se publier. Vous faites ce que vous voudrez. Ils m'ont dit, c'est une bêtise, mais on va le publier, quand même, parce que nous n'avons d'autres choses. Dans ce temps-là, la maison d'édition, c'était plus humaine. Et je disais, bon, voyons ce qui se passe. Là, il y a aussi un grand succès parce que là, j'en dis ça. Sauf la critique qui attendait quelque chose de plus sérieux après le premier roman. J'attendais quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ce type? Il est perdu complètement. Ils m'ont laissé tranquille. C'est bon. Et puis, quelques années plus tard, j'ai pensé, ce personnage, je l'aimais bien. Parce que c'était mon alter ego, un type qui se trouve dans une ville. Et j'écris un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Je n'avais jamais eu l'intention de faire une continuation, une série. Maintenant, il y a cinq.
Mais vous en parliez avec Montalban de... Est-ce que vous parliez de vos romans policiers?
Oui. Enfin, on se voyait. Oui. On se voyait. On allait prendre un pot avec un groupe. Nous étions des bons amis. On discutait toujours parce qu'il était un homme des idées très fermes. Oui. Il était du comité central du Parti communiste. Et moi, je ne l'étais pas. Il me disait, tu es un anarchiste frivole, méprisable. Il disait, oui, mais on s'aimait beaucoup. Quand il est mort, j'ai eu vraiment un moment de... C'était pour moi terrible.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est l'anarchiste frivole qui a écrit une comédie légère? Ou la comédie légère?
Oui. En fait, la comédie légère, c'était le troisième livre, je crois, que j'écris pas comme une série, une continuation, mais je voulais raconter une histoire d'un personnage, mais aussi de Barcelone, de la société de Barcelone, d'un moment donné de la société de Barcelone, sous le franquisme. Il y en avait beaucoup de romans qui parlaient de cette période après la guerre, mais c'était écrit par le banc de républicains, les répressaliés, les pauvres. Si vous voulez raconter ce qui s'est passé au banc du vainqueur, qui vivait très bien, mais qui avait vendu l'âme au diable. C'est ça ce que je voulais raconter. Alors j'écris la comédie légère, qui n'a pas eu un grand succès.
Et qui n'a de légère que le nom.
Non. Mais que j'aime beaucoup. Je comprends que je ne suis pas réussi à raconter ce que je voulais raconter, ou à le raconter exactement comme il devait être raconté. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais maintenant si je l'écrivais de nouveau, mais je vois aussi les problèmes.
Oui, mais pourtant, c'est un des livres qui permet le mieux de comprendre ce qu'a été la société espagnole franquiste, entre guillemets, parce qu'ils étaient parfois franquistes, mais parfois ils étaient franquistes parce qu'il fallait l'être. Pendant toute cette période et qui a duré jusque dans les années 70. Or, de ce point de vue-là, c'est une critique politique très très acerbe de votre pays. Et est-ce que vous avez eu des problèmes de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez été attaqué sur peut-être la non-compréhension de ce roman?
Non. Pas vraiment, non. Le roman n'a pas eu un grand succès, alors peut-être c'est ça qui m'a sauvé des critiques. Et peut-être je n'ai pas très bien raconté ce que je voulais raconter. Je ne voulais pas faire une critique, mais plutôt une analyse, que je crois que c'est très intéressant, de ces sociétés qui vivent dans une situation d'injustice, mais qui accepte parce que il a de l'ordre, de la tranquillité, tout est bien, tout est joli, et il s'accepte. Ça peut s'appliquer à une situation de dictature ou d'autres qui ne le sont pas. C'est juste intéressant. Qu'est-ce qu'il faut payer pour cette vie de château dans une situation qui, sans être coupable vraiment, parce que c'était les bons gens qui aimaient le sein des autres, qui faisaient de la charité, qui étaient faisaient des enfin, c'était gens bien, mais ils acceptaient une situation. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien probablement, mais ils acceptaient la situation. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec nous quand nous acceptons la même situation n'importe où, n'est-ce pas? Ou dans le futur?
Oui, ou même dans des dictatures molles telles qu'on peut les apercevoir peut-être aujourd'hui dans ce qui peut se passer même en Europe. Je voudrais aborder maintenant un autre genre, et moi c'est un roman qui m'a, quand je l'avais lu à l'époque, il a dû être traduit en France il y a une dizaine d'années, je pense, peut-être un peu moins, qui rassemble vos deux univers. Et il rassemble à la fois votre univers fondamentalement ibérique, et à la fois, en même temps, une de vos passions, finalement, enfin, je ne sais pas si c'est une passion, tout au moins une vie que vous aimez beaucoup, qui est la vie britannique. Mm-hmm. Et c'est donc Regna de Gatos, Combat de Chat, c'est traduit en français par Combat de Chat, et qui est où un Anglais vient expertiser. Alors ça se passe avant la guerre civile, pendant la guerre civile, tout à fait au début de la guerre civile, en 1936. C'est un Anglais qui vient expertiser un supposé tableau de Velázquez. Et est-ce que la peinture, est-ce que les peintres ont une importance considérable dans votre vie?
Oui, enfin, c'est difficile d'être espagnol ne voir pas ce que la peinture a été dans l'histoire de l'Espagne. Enfin, si vous pensez Velázquez, Goya, qui est tellement lié à Bordeaux, au Picasso, je ne sais pas ce qui se passe en Espagne avec la peinture.
Oui, non, mais d'évidence.
Alors, bon, ça, c'était un prétexte de cette. C'était encore la même histoire. Un type qui pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique, sinon parce que on lui demande de certifier un tableau, bien va en Espagne, à Madrid, juste avant la guerre civile. Alors, ce que je voulais raconter, c'était ces moments de l'histoire, parce que, enfin, tout le monde sait ce que c'est la guerre civile, comment elle a commencé, comment elle a fini. Mais je voulais raconter le moment où personne ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Ça pouvait venir. On pensait que pouvait avoir une.
Oui, mais la guerre rôde sans arrêt dans votre. Enfin, la préscience d'un drame rôde dans votre roman.
Oui, oui, oui. La guerre était possible, mais la paix était aussi possible. Le dialogue était aussi possible. Alors, je voulais parler aussi de la position de individuelle des personnes qui sont en train, qui les choses encore ont la possibilité d'aller d'une façon ou d'une autre. Et puis, je voulais raconter aussi l'histoire de Madrid en ces années-là. Parce que, puisqu'il y a eu la guerre a été atroce, très sauvage, très acharnée. On a l'idée d'une Espagne très arriérée, qu'il était un bon parti. Mais on a oublié que dans ce moment-là, Madrid était sûrement la ville la plus moderne, la plus avancée, la plus intéressante de l'Europe, où tous les intellectuels étaient là. Et c'est une ville avec des possibilités incroyables. Le femme, par exemple, qui avait été réduit à rien pendant des siècles, qui commençait, qui faisait de la politique, qui avait des ministres qui étaient femmes pour la première fois. Le mouvement intellectuel, les avant-gardes, le cinéma, la peinture, tout ça a été malgré les possibilités incroyables qui étaient là et qui ont fini comme c'était comme l'incendie de Notre-Dame. Un jour, pop, tout ça c'est fini, et c'est fini pour des décennies. Alors, je voulais raconter, récupérer ces moments à travers le yeux d'un témoin impartial qui était un Anglais qui ne s'intéresse à rien sauf la peinture.
Et vous-même, est-ce que vous vous intéressez à la peinture? Vous avez un peintre préféré?
Non, ça m'intéresse. J'aime bien la peinture comme j'aime bien la musique. J'adore Velázquez, évidemment. Je l'ai étudié. Je l'ai découvert de quand j'étais un enfant. C'était à Barcelone, n'est-ce pas, d'où je suis. Et mon père m'a porté à Madrid un jour et m'a dit on va voir le musée. Et ben, on va voir un musée. Et on est entré là. Il m'a dit ben, ça, c'est le meilleur tableau du monde. C'était Las Meninas. Alors, c'était dans un petit coin à ce temps-là avec un miroir, avec un petit miroir. Et si vous regardez le miroir, vous voyez le tableau et toute la profondité du tableau.
Et c'était au Prado avec un miroir comme ça.
Oui, il avait c'était une salle seule pour la Meninas. Et juste en face, il y avait un petit miroir comme ça. Alors, si vous regardez vous regardez le tableau. Vous faites un demi-tour, vous regardez le miroir et vous voyez le tableau dans le miroir. Et dans le miroir, c'est un expériment très intéressant de voir un tableau avec un miroir. Parce qu'alors, un miroir a une profondité inexistante, comme un tableau. Mais nous voyons la profondité dans le miroir. Alors, on voyait cette incroyable, il y a un personnage qui était au fond de la salle, mais qui était évidemment dans le tableau. Et j'étais très impressionné. Et puis, j'ai passé beaucoup de heures. J'étais, pendant certaines années, membre du patronat du musée du Prado. Alors, j'allais, quand il y avait une réunion du patronat, j'allais de Barcelone. Et parfois, la réunion durait 20 minutes, une heure au maximum. Alors, j'avais fait le voyage de Barcelone à Madrid. Et je restais au musée. La réunion, c'était dans le musée même. Je restais là. Le musée, parfois, était fermé. Alors, je me promenais pendant 2 heures, moi, tout seul. Non, oui, c'était tout pour moi. J'allais voir une chose, je revenais.
Ça, c'est un cadeau inestimable, quand même.
Oui,
C'est merveilleux. Parce qu'il faut quand même dire, sans vouloir vous flatter votre orgueil national, je ne sais pas si vous avez un orgueil national, d'ailleurs, mais le Prado est quand même l'un des plus beaux musées du monde. Enfin, définitivement, oui, franchement.
Oui. Oui.
Le nombre de chefs-d'œuvre qu'on peut y trouver, c'est quand même considérable.
Oui, parce qu'il y a des grands chefs-d'œuvre un peu partout, italiens, allemands, il y a de Dürer, de
Pays-Bas,
de tout. Mais il y a en plus les grandes collections. Velázquez n'a pas 2, 3, 4, mais là, 25, 26. Velázquez, Goya, on ne finit pas de voir le. Des Titien, par exemple, je peux vous donner les chiffres. Il y a 74 tableaux de Titien au musée des Prado.
Les peintres hollandais.
Incroyable. Parfois, il y a des musées qui ont 1, 2. Et comme ça, c'est infini.
Bien, on va aborder un autre sujet qui est un sujet en même temps d'actualité, mais c'est une actualité qui dure et dont on ne sait pas comment elle n'en finit pas. C'est la Catalogne.
Alors, naturellement. Mais non, à Velázquez.
Je suis désolé. Si je veux parler de vos livres, je suis obligé de parler de... C'est bien vous qui avez écrit que se passe-t-il en Catalogne. Ah bon, vous me rassurez. Donc, que se passe-t-il en Catalogne? Je voudrais savoir comment, finalement, vous êtes transporté dans ce qui est une querelle, l'une des plus graves querelles que connaisse l'Espagne aujourd'hui. Parce que se passe-t-il en Catalogne? C'est également une réflexion sur, d'une certaine manière, la transformation de l'histoire.
Oui. Enfin, les livres, c'est une question, mais pas une réponse. Que se passe-t-il en Catalogne? Je ne le sais pas. Le texte pourrait être, je ne le sais pas. Mais ce que je voulais, c'était raconter un peu la complexité du problème, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous disais, j'habite à Londres, j'étais là, j'ai lissé la presse anglaise, et on me demandait, et je voyais qu'ils avaient des idées assez simples, surtout qu'ils voyaient la question, je ne dis pas le problème, la question du point de vue de la guerre civile, le franquisme, l'histoire de l'Espagne. Quand on est un peu loin, on a la tendance à avoir une vision télescopique. Une fois, j'étais dans un pays assez éloigné, et on m'a posé une question. Pour vous, qui est plus important, Dali ou Gaudi? Parce que c'était le seul nom espagnol qu'il connaissait. Bon, alors, quand il parlait de la Catalogne, de l'Espagne, il parlait de la guerre civile, de Franco, du fascisme, tout ça. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Enfin, c'est un recours facile pour exprimer, pour insulter, pour argumenter, mais c'est un phénomène complètement différent, c'est une question très ancienne qui a évolué, etc., etc. Enfin, c'est évident que l'histoire a beaucoup à faire avec la question, mais la question maintenant, telle qu'elle est aujourd'hui, puis il y avait la chose plutôt romantique de le lutteur, le petit contre le géant, l'opprimé,
une mythologie réinventée.
Oui. Qui s'était passé aussi avec les Pays Basques État, dans là, et c'est le lutteur pour la liberté. Arrêtez.
Bien, alors, votre dernier livre qui n'est pas encore traduit en français s'appelle Regresive. Je ne sais pas comment il sera traduit, enfin, je pense que c'est Le Roi reçoit, je ne sais pas. Il sera édité au Seuil, je crois, c'est ça. Bien. Et là, vous inventez, vous abandonnez le personnage du détective et vous allez inventer le personnage d'un journaliste. Mm-hmm. Mais pourquoi un journaliste?
Non, je voulais écrire. Je commençais. Enfin, j'ai reçu le prix Cervantes il y a 3 ans, et ça a été un grand honneur. J'étais très content, très fier, mais en même temps, je pensais, bon, ça veut dire que vous êtes. J'ai regardé les statistiques de survie de prix Cervantes, c'était 5 ans. Alors je pensais, l'heure est arrivée de fermer un peu la. Je pensais, et je pourrais bien écrire mes mémoires, mes souvenirs, autobiographie. J'ai abandonné l'idée en 5 minutes parce que c'était impossible. Mais j'ai décidé de faire un roman. C'est la seule chose que je sais faire, un roman pas autobiographique, mais qui se déroule dans mon temps. Alors, j'ai inventé un personnage qui n'est pas moi, qui est comme mon alter ego, qui est un journaliste, qui va ici, là, enfin, comme tous ces types qui, sans appartenir au monde dont ils parlent, ils sont des témoins, mais témoins qui viennent de dehors, de là, et sans beaucoup de vocation pour le journalisme, il abandonne le journalisme, mais un peu un type qui se laisse emporter par le vent, et qui est ici et là, et qui est témoin de certains mouvements, et comme moi, qui va vivre à New York, et puis il revient. Enfin, j'ai décidé de faire une trilogie, parce que c'est un livre très gros, et je pensais que 3, ça passe mieux. On me disait toujours, non, il ne faut pas écrire une trilogie, surtout si tu fais une trilogie, ne le dis pas, parce que si tu dis ça, le premier volume d'une trilogie, alors tout le monde dit, bon, je l'achèterai quand le troisième sera publié. Mais maintenant, les trilogies sont à la mode. Après Elena Ferrante et tout ça, il faut écrire une trilogie. Alors, je pense, bon, c'est l'opportunité. Et j'ai fait le premier d'une trilogie. Maintenant, je suis en train de faire le deuxième parce qu'il faut... Il faut aller vite, sinon les gens oublient le premier, ils n'achètent pas le deuxième, n'est-ce pas? Alors je suis en train de faire la deuxième partie. Mais je voulais raconter ça, un type qui fait le journalisme, puis il va à New York avec un boulot qui ne l'intéresse pas, mais il est à New York, les années 70... Le temps où j'étais à New York, puis rentrer là à Barcelone pendant la
transition. Oui. Voilà. Bien, mais écoutez, après cette définition parfaite du journalisme.
Mais je parle du journalisme en Espagne, surtout à Barcelone, dans ces années-là. Qui était en train de devenir, parce que, enfin, s'il y a une censure, le journalisme presque rien. Enfin, la chronique de ce qui se passe dans la rue, le cinéma, le taureau, le football, un peu le. Mais il y a un moment où le journaliste, ça s'est passé en Espagne, les protagonistes de la transition, ça a été le journaliste.
Oui. Avec d'admirables réussites journalistiques, d'ailleurs. Parce que le País, c'est un très grand journal.
Le País, mais tout, un grand les, journal. Tous les journaux. Parce qu'ils sont donnés... Le genre s'est trouvé dans une situation nouvelle. Et l'opinion publique, tout ce qui s'est passé, tous les ce n'était pas seulement la politique. On pensait, bah, c'est la transition, c'est le chef de l'État et le... Non, c'est beaucoup de choses qui se passent au jour le jour. C'était le journalisme qu'il a. Et il raconte, je raconte ça dans le livre, le moment où le journalisme passe d'être un métier comme un autre à être vraiment la grande responsabilité d'être témoin, de lance.
Le témoin d'une époque.
Oui.
Eh bien, écoutez, merci infiniment pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble, Eduardo Mendoza.
Merci.
Et je suis vraiment ravi que vous ayez pu avoir ce témoignage rapide, certes, mais extrêmement important sur ce que fut 30 ans, 40 ans de témoignages autour de l'Espagne. Bravo, merci.
Merci.